Chapitre 7e. Numéro 445. Mademoiselle Gosselet, fille du grand fabricant de poupées, n'était plus dans la maison de Jobson qu'une unité ouvrière, une machine à plisser, ourler, broder. À son arrivée dans l'atelier de Madame Milly, la seconde, Maria, la fit asseoir près d'une première, un ténor de la couture, une belle fille blonde, habile à étager des dentelles en coquille sur les devants de corsage, à étaler des revers de satin, à échafauder des manches à gigot. « Vous voudrez bien surveiller votre nouvelle associée, Mademoiselle Léonie. » Mademoiselle Léonie approuva d'un mouvement de tête qui éparpilla ses frisons sur son nez. Elle continua à draper un corsage de surat sur le mannequin debout devant elle. Des épingles entre les lèvres, elle tiraillait l'étoffe de ses doigts fins, les sourcils froncés, les joues rouges. Madame Milly cria de sa place. « Ça ne va pas, ma petite Nini ?»« Madame, je n'ai pas assez d'étoffe. » « Comment, pas assez d'étoffe? La manutention vous a livré tout ce qu'il fallait. » Des rires s'élevèrent d'un coin de l'atelier et Mademoiselle Léonie dit, rageuse, « Celles qui rient ne sont pas capables de le draper. » Madame Milly, conciliante, « Vous avez raison, ma petite Nini. Mais qu'est-ce qu'il a donc, votre corsage ?»« Le surat a dû se retirer. »« C'est bien possible, mon enfant, bien possible. Enfin, essayez de nouveau. » La première main réussit enfin à rassembler les sous-bras, à grand renfort d'épingles. Elle s'essuya le front, triomphante, dit tout bas à sa voisine, « Tu sais, ton Charles peut se fouiller s'il compte porter des cravates taillées dans l'étoffe que j'emploierai. S'il n'y avait pas de doublure solide sous le surat, ce que ça craquerait ?» Madame Milly, une vieille anglaise qui gagnait 500 francs par mois à tracasser les 40 ouvrières qui travaillaient sous ses ordres, vint examiner le corsage. « Très bien, ma petite Nini. Joel Palmer en sera contente. Votre vêtement a le chic anglais et la grâce parisienne. Elle vous estime beaucoup, Joel Palmer, mon enfant. Moi aussi, je vous estime beaucoup. À propos, venez donc me voir dimanche à Asnières. Je vous ferai retoucher ma jaquette. Oh, un simple point !» Puis, se tournant vers Simone, « Tiens, je n'avais pas vu cette petite. C'est votre associée, Léonie ?»«
Oui, madame.
Quel est votre prénom, mademoiselle ?»«
Simone. »
Simone, oh, impossible, impossible.
Mais, madame,
nous avons déjà deux Simone ici. Deux, c'est beaucoup, trois, ce serait trop. On ne s'y reconnaît plus, ma parole. Vous vous appellerez...
La main posée à plat sur le front, Madame Milly chercha dans ses souvenirs littéraires le nom de quelque héroïne particulièrement aimée. Elle essaya des prénoms à voix basse. Amanda, Yolanda, Gertrude, Simone... qui, d'abord, avait cru à une plaisanterie, attendait, angoissée, la décision de la vieille anglaise, rougissant sous tous les regards fixés sur elle. Brusquement, Madame Milly dit, s'applaudissant en une sonnaille de ses bagues heurtées,
« On vous nommera Magdeleine, avec un G. »
Simone détourna la tête pour dissimuler les larmes qui allaient tomber de ses paupières alourdies. Se voyant, Léonie la caressa d'un regard très doux de ses yeux teintés gris et chuchota,
« Soyez courageuse, mademoiselle. Nos camarades se moquent si facilement. Cette vieille folle de Madame Milly a la manie de baptiser presque toutes ses ouvrières. Vous resterez Simone pour moi et aussi pour d'autres qui ont bon cœur. » La matinée s'écoula d'abord monotone, en un demi-silence fait de chuchotements, de réprimandes lancées par la première, de glissements de pas des petites apprenties envoyées en course à travers les ateliers. Simone travaillait vite, sans lever les yeux sur les yeux qui lorgnaient son costume, son visage, ses mains. De temps à autre, Mademoiselle Léonie murmurait « Dépêchons, Joe Palmer doit venir ce soir. Elle est capable de casser son éventail sur le genou du père Jobson si son corsage n'est pas prêt à l'essayage. » Quatre ou cinq machines à coudre unissaient leurs bourdons en un ronflement assourdissant qui obligeait les ouvrières à rapprocher leurs tabourets pour causer de leurs affaires de cœur. Mademoiselle Milly s'irritait de ses confidences.
« Ah, ça, voyons, vous n'êtes pas venu ici pour faire la causette. Monsieur Plenty se plaindra certainement du travail de l'atelier cette semaine. Nous avons déjà quatre corsages à recommencer. On ne peut pas songer à tout en même temps. Laissez vos amoureux tranquilles, que diable. D'ailleurs, ce qu'ils se fichent de vous ?»
Par les fenêtres ouvertes sur une cour intérieure, une lumière grise pénétrait dans l'atelier, blêmissant les visages. Les poudres de toilette se roulaient en granules sur les dermes desséchées par la température lourde. des débris de ouates s'accrochaient aux cheveux lâchés par des peignes d'écailles. L'odeur fade des chairs assemblées en tas montait aux narines. Les fronts se penchaient sur l'étoffe, alourdis par la migraine. Se voyant devenir laide, les ouvrières de Madame Milly tirèrent de leurs tiroirs des boîtes minuscules, des flacons à facettes, des bâtons de cosmétiques chemisés d'argent. Des odeurs de parfums à base de musc envahirent la petite salle, mêlées aux relandos de mélisse que buvaient de pauvres filles griffant leur corsage pour calmer leurs douleurs d'estomac. Les plus souffrantes quittaient vite leurs tabourets, se dressaient, le buste penché en arrière, les mains posées sur les hanches, et marchaient à grands pas dans l'atelier, suivies dans leur allée par les yeux émus des gamines qui ne s'expliquaient pas ces douleurs subites. Madame Milly grommela. « Elles sont toutes malades, toutes. Elles boivent tellement de vinaigre pour s'amincir la taille. » De l'atelier voisin, séparé de l'atelier de Madame Milly par une cloison, une apprentie vint donner l'alarme. « L'inspecteur, Plenty !» Ce fut un heurt de petits bancs, un froissement d'étoffe, un cliquettement de machine à coudre. Quand M. Plenty fit son entrée, solennelle, encerclée dans sa redingote raide comme une armure, Madame Milly avait fait disparaître le volume d'Anna Radcliffe qu'elle lisait, ouvert sur sa table à ouvrage. Mademoiselle Maria, la seconde, avait glissé dans sa poche les jarretières roses et crème qu'elle enjolivait de bouffettes en satin. Les ouvrières travaillaient en petites filles bien sages, leurs cheveux effleurant l'étoffe. Les apprentis balbutiaient des boutonnières sur des bouts de chiffon, mordant leurs lèvres à pleines dents pour ne pas rire. M. Plenty traversa l'atelier, souriant en homme que satisfont les apparences. Midi sonna. Le grand couturier Japson mettait à la disposition de ses ouvrières un réfectoire où elles pouvaient cuire leurs aliments, mais les petites couturières préféraient manger au restaurant. Elles ne voulaient pas s'embarrasser au départ du petit panier révélateur qui ameute derrière les trottins, dans la rue, et les chiens et les hommes, les bêtes à quatre pattes suivant, attirés par l'odeur du beefsteak, les hommes, emboîtant le pas, alléchés par la bonne petite chair fraîche, lâchée en liberté sur le trottoir. Simone suivit Mademoiselle Léonie dans l'arrière-boutique d'un marchand de vin, où elles prirent place sur une banquette de cuir rouge avachi, devant la table de marbre occupée déjà par deux employés d'une banque voisine. Sous les yeux ruminants d'un grand jeune homme bien peigné, qui semblait s'intéresser au jeu de sa fourchette, la fille de M. Gosselet mangea une demi-portion de ragoût arrosée d'un demi-sétier de vin. Dans la salle basse, tout enfumée par les cigares des hommes qui prolongeaient leur sieste pour embêter les ouvrières de Japson, les couturières étaient rangées en file le long des murs. Les clients arrivés avant midi avaient soin de s'emparer des chaises, laissant libre la banquette pour se procurer un vis-à-vis, pour se donner l'illusion d'un tête-à-tête au dessert. Le palais chatouillé par les picotements du petit ver de mare, les yeux clignotants, le ventre lourd de mangeaille, il bégayait des plaisanteries, essayait des attitudes de pacha bon garçon, souriait, léchait leurs babines engluées d'alcool. Il feignait de ne pas entendre les rires lâchés comme des feux de peloton au signal donné par quelqu'un de trépide, vieille fille aguerrie, dans cette lutte perpétuelle du mâle contre la femelle. Ils s'attardaient en leurs rêves, puis, la montre consultée, hélait le garçon, laissant deux sous sur l'ardoise où figurait l'addition recommandant de garder la place, la bonne place, pour le lendemain. Ils s'en allaient, un à un, sans hâte, comme à regret, se retournaient sur le seuil de la porte, pour sourire à la jolie fille désirée dans la tiédeur calme de la digestion, dans l'Olympe à nuée grise, machinée par les spirales de la fumée. Le monsieur bien peigné resta seul, la nuque posée sur le dossier de sa chaise, les yeux fixés sur Simone en une insistance provocante. La fille de M. Gosselet, le geste embarrassé, le regard levé vers le plafond, puis baissé sur son assiette, supporta d'abord assez vaillamment l'inspection de l'inconnu. Mademoiselle Léonie lui expliquait quelle était la clientèle de Japson. Elle feignait d'écouter. Soudain, un sang chaud lui colora les joues. Elle jeta sa serviette sur la banquette, repoussa son assiette et fixa l'homme d'un air de défi. Le monsieur bien peigné murmura très calme, sans changer de position. « Pas mal. Monsieur, je ne vous connais pas, mais vous me semblez être fort mal élevé. Vous ne me connaissez pas. C'est ce que je regrette. Je serais trop heureux si vous me connaissiez. Monsieur, vous voulez m'obliger à abandonner la place. » Les causeries, les papotages des ouvrières avaient cessé. Tout écoutait, amusé, jouissant, le poing sous le menton, le coude sur la table,
de cette querelle où leur cause était en jeu. « Je suis désolé, mademoiselle, mais vous oubliez que nous sommes au restaurant, dans un lieu public. »«
C'est-à-dire, monsieur, que vous vous permettez en public ce que vous ne vous permettriez pas chez mon père, par exemple. »«
Votre père est un bienheureux père, de posséder une aussi jolie fille. »
« Mais je ne puis cependant pas fermer les yeux pour ne point voir. »«
Monsieur, vous êtes insolent. »«
Voyons, des injures, parce que je vous trouve belle, c'est exagéré. »«
Il est grossier de regarder une jeune fille avec tant de persistance, tant de fatuité, et je regrette que mon fiancé ne soit pas là pour vous corriger comme vous le méritez. »«
Ah, vous m'en direz tant, dame, si la place est prise. »«
Vous avez beau mérite à vous gendarmer. »«
Prise ou non, monsieur, il est lâche de ne pas respecter une femme seule. »
Continuez.
Vous oubliez que nous sommes au restaurant.
Je ne l'oublie pas, monsieur, et je vous prie de considérer que je ne fais pas partie du menu.
Sa houppe de cheveux dressée comme une crête, les doigts tendus, Simone évoquait assez exactement l'image d'un petit coq de combat prêt à s'élancer. Son adversaire, toujours calme, toujours souriant, en homme habitué à ses escarmouches, continua.
J'ai toujours pensé que la colère rendait les femmes plus désirables.
La fille de monsieur Gosselet haussa les épaules, méprisante,
et pria mademoiselle Léonie de demander l'addition.
Mais la première main voulut prendre la défense de son associé. Elle regarda le monsieur bien peigné et dit d'une petite voix calme.
« Monsieur, nous pensons toutes ce que mademoiselle vient de vous dire, et nous mettrons le patron de l'établissement en demeure de choisir entre...
Je vous gêne aussi, mademoiselle ?
Moi, non, vous me dégoûtez, tout simplement.
Vous avez une trop jolie raie sur le crâne. Vos faux-cols sont trop hauts.
Votre moustache a toujours l'air de vouloir éborgner les gens.
Un caporal en retraite.
Ainsi, joli garçon, vous êtes dangereux.
Très dangereux.
On voit que les femmes vous ont gâté. Eh bien, malgré tous ces avantages, vous me dégoûtez. »
Le monsieur, bien peigné, ne souriait plus que pour faire bonne contenance. Il voulut répondre, mais les quolibets couvrirent sa voix.
« Ouh, le beau garçon, on en mangerait. C'est Rodolphe, des mystères de Paris.
Oh, qu'il est batte.
Il a peut-être besoin d'argent, le pauvre. »
Il se leva, renonçant à tenir tête à la tempête des langues déchaînées. Comme il arrivait près de la porte, une ouvrière de Ménilmontant lui cria, la bouche tordue.
« Et va donc, purotin, on t'en fichera des gerces. »
Les ouvrières la félicitant, Simone dit,
« Je ne vois pas pourquoi les ouvrières n'exigeraient pas le respect qui leur est dû. » Elles se regardèrent un peu étonnées de la façon dont la nouvelle venue avait prononcé le mot « respect ». Et mademoiselle Léonie répondit, soulignant ses paroles d'un geste là.
« On prend la mouche, une fois, deux fois, puis on se fatigue.
Mais vous n'avez donc jamais travaillé dans un atelier, mademoiselle ?»«
J'ai des mamans qui étaient couturières, » répondit Simone, embarrassée.
À l'atelier, la soirée s'écoula calme. Sous les becs de gaz allumés dès 4 heures, les ouvrières de Jobson travaillaient, la nuque brûlée par les petites flammes papillotantes au-dessus de leurs casques de cheveux à reflets métalliques comme des insectes ailés prêts à se poser sur des fleurs pâles, des fleurs de serre. Les corsages dégrafés bâillaient, laissant voir des blancheurs de chemisette. Dans l'ombre, les yeux se cerclaient de violet. Malgré la lassitude, malgré la migraine, les petites couturières souriaient. Elles souriaient, songeant à la délivrance prochaine, aux amoureux qui les attendraient à la sortie de l'atelier, et baiseraient leurs souffrances, leurs labeurs, leurs bouches blanches. Une fillette, descendue des salons d'essayage, vint annoncer et essouffler
« Joe Palmer, venez vite !»
Madame Milly, qui sommeillait, Mademoiselle Maria, qui essayait ses jarretières rosées crème, Léonie, qui achevait de poser un Américain, un tampon d'ouate sous les entournures du corsage de Surat, se levèrent brusquement.
« Venez avec nous, Mademoiselle Simone, » dit Léonie. Joe Palmer est toujours heureuse d'avoir beaucoup de monde à ses essayages. L'habitude du public, sans doute.
Dans le grand salon meublé de psyché et de sièges bas, Joe Palmer causait avec le grand couturier Jobson. Joe Palmer, à la ville, portait des gants laissant le poignet à nu, des corsages à col haut, des jupes très étoffées. Ce n'était plus la Joe Palmer des affiches, la Joe Palmer à tignasse rousse, à pattes noires, à corsage vert échancré en V. Joe Palmer s'habillait de façon discrète, mais bourrait les doublures de ses vêtements de sachets de musc, d'héliotropes, bien capable de tenir ses admirateurs à distance respectueuse. Debout, devant le couturier, elle babillait.
« Je ne suis pas contente, même pas, j'ai des robes de ville affreuses. Ah, dites donc, je vais apprendre à monter à cheval. Il me faut une amazone. Je porterai bien une amazone. J'ai la taille fine et la selle large. Hein? N'est-ce pas que j'ai la selle large? Vous êtes mon couturier, Jabson. Vous devez savoir ça. »
Avisant le cheval de bois qui servait aux essayages des costumes de cheval, Joe Palmer sauta en croupe de la bête, lui caressant l'encolure de petits tapotements de main. Jabson applaudit.
« Toujours adorable, mademoiselle. »
« Monsieur Jabson, vous avez l'adoration compromettante. Vous êtes trop gros, trop chauve, trop English, avec votre ceinture noire étalée sur le plastron de votre chemise. »«
Vous ne trouvez pas, vous.
Mais voilà ces dames venues pour l'essayage. »
Ces dames attendaient depuis 10 minutes et ne s'étonnaient point trop, habituées aux excentricités de Joe Palmer. Simone dissimulait son trouble, prévoyant quelque nouvelle injure dont souffrirait son orgueil de femme.
Madame Milly et Maria souriaient. Léonie tenait le corsage tendu au bout de ses deux poings. Deux employés à livrée noire et à col blanc portaient des sébiles remplies d'épingles.
Joe Palmer s'approcha d'une psyché, examina son visage longuement, puis enleva sa jaquette avec l'aide de Jabson.
Madame Milly, Maria, Léonie et Simone l'entouraient cérémonieusement, attendant ses ordres.
Joe, les yeux toujours fixés sur la glace, dit, faisant la moue,
« Encore un nouveau visage. »« Je n'aime pas ça. Vous entendez, Jabson? Je n'aime pas les nouvelles têtes. Comment vous nomme-t-on, petite ?»
La fille de M. Gosselet hésita, puis répondit,
« Simone, madame. »« Mais non, mais non. Vous vous nommez Magdeleine, avec un G. »«
Allons bon, » dit Joe.
« Voilà encore un tour de cette vieille folle de Madame Milly.
Voyons, Madame Milly, mademoiselle sait mieux que vous à quoi s'en tenir sur ce sujet. » La vieille anglaise riposta, triomphante.
« Mais non, madame, c'est moi qui l'ai baptisée. »«
Comment? Vous l'avez baptisée ?»«
Madame, j'avais déjà deux Simones dans mon atelier, alors... »«
Bien, bien. Quand il vous viendra la fantaisie de faire teindre vos ouvrières, je vous demanderai d'assister à l'opération. » S'apercevant de la confusion de Simone, Joe Palmer, qui était bonne, voulut bien lui tendre la main.
« Il faut pardonner à cette vieille folle de Madame Milly, mademoiselle. Je regrette d'avoir renouvelé l'ennui qu'a dû causer ce singulier baptême. »
Puis la divette se tourna vers l'anglaise.
« J'ai tout vrai à moi, Madame Milly. Je vous jure que vous n'auriez pas touché à une syllabe de mon prénom, si vous aviez eu le moindre souci de votre perruque. »
Madame Milly fit un mouvement de recul pendant que Jabson applaudissait.
« Toujours charmante. » Ceci dit, j'attends qu'on m'essaie ce fameux corsage. »
Comme l'anglaise se précipitait, espérant rentrer dans les bonnes grâces de la chanteuse, Joe Palmer lui dit, en une torsion de cou souverainement dédaigneuse,
« Ne me touchez pas !»
Et avec des gestes solennels de grand prêtre, le couturier à la mode ajusta le corsage de Joe Palmer, l'annota, le corrigea, jusqu'à ce qu'il alla comme un gant. La chanteuse continuait de rire, de plaisanter pendant cette opération exécutée au milieu d'un silence religieux. Elle disait à Jabson qu'il avait la main si légère, si délicate, le toucher si habile et si savant, que c'était un plaisir dont il n'avait pas idée que de se faire manipuler par lui. Il sourit et répondit, avec une de ces belles révérences dont il avait la spécialité,
« Oh, mademoiselle, j'opère comme un médecin. »
« Jabson, couturier médecin. Quel titre à prendre, mon cher, et quelle réclame à faire là-dessus »
Joe Palmer parlait, tandis que Jabson, toujours très grave, achevait son travail d'auscultation et d'ajustage en faisant courir, comme sur un clavier, ses grands doigts minces et polis le long de la taille de la chanteuse. Trop fatiguée pour gagner sa chambre à pied, Simone, à la sortie de l'atelier, longea la rue de Rivoli jusqu'au Châtelet et attendit le tramway de Montrouge. Elle monta dans une voiture où des fillettes sommeillaient, exsangues et frêles, la tête posée sur une épaule amie. L'usine, l'atelier les avait façonnées peu à peu en cadavres, les avait préparées de jour en jour pour la terre grasse des cimetières de banlieue. Malgré la lassitude de leur chair, elles levaient vers le visage de l'homme aimé leurs yeux souriants, doux dans l'ombre des paupières meurtries. Elles semblaient avoir hâte d'user leur machine humaine pour arriver vite au repos. Ses doigts effleurant dans sa poche le jeton de cuivre qu'on lui avait délivré chez Jabson, Simone songea qu'elle avait pris place dans le grand régiment des pauvres, des humbles et des sacrifiés. Elle ferma les yeux pour ne plus songer qu'à son fiancé qui la sauverait des humiliations et des besognes mangeuses de vie.